Bonjour, ici Camille Dubé. Dicam Media vous présente une troisième vidéo hors sujet de l'émission Les Colorés dans le cadre des ateliers de l'Aqueta, secteur Laval, portant sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les adultes. Didier Guérin et moi-même avons fait une présentation le 18 novembre 2020 aux membres de cette association portant sur le télétravail et la télépédagogie. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Nous allons commencer par la table des matières, si vous le voulez bien. On va commencer par avoir une petite introduction pour se mettre au diapason, si on peut dire. Ensuite, on va parler de quelques notions du TDAH, mais vraiment les notions de base. Ensuite, on va discuter du contexte de télétravail et de télépédagogie pour ensuite parler de stratégie au niveau du télétravail et de la télépédagogie. On va parler de l'espace de travail, de l'équipement, de l'importance de maintenir le contact avec le bureau ou l'école. On va parler aussi des outils technologiques. C'est une section qui va être très importante, qui va prendre une bonne partie de la rencontre. Alors, faites-vous-en pas, là, vous allez pouvoir revisionner les capsules portant sur les outils technologiques. On va parler ensuite d'avoir des attentes réalistes face au travail, face au télétravail et face à la télépédagogie. Et ensuite, on va parler de comment gérer son stress en temps de pandémie. Et on va finir ça avec un petit résumé de la présentation. Petite introduction. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de la pandémie, nous allons voir comment atténuer les différentes difficultés qui sont liées au télétravail et à la télépédagogie et quelles sont les stratégies à mettre en place pour mieux gérer et poursuivre notre travail, nos études, nos enfants qui sont à la maison à cause de la pandémie et aussi comment mieux gérer son TDAH. Nous allons voir comment tirer profit aussi de la technologie pour nous aider comme travailleurs, étudiants, mais aussi comme parents. Nous vous invitons à regarder les deux premières capsules qui ont été produites afin d'avoir quelques notions de base sur le TDAH, mais aussi sur les différentes stratégies à utiliser pour mieux gérer son TDAH. On va parler un peu des symptômes chez les adultes. Les différents symptômes qu'on va retrouver, ce sont les troubles attentionnels. Là, on va parler un peu de l'attention qui est commune chez les personnes ayant un TDAH. Le trouble d'attention se retrouve dans le fait de ne pas écouter l'autre. La difficulté va se retrouver en réunion, de personne en personne, en classe, etc. On va retrouver aussi une grande agitation motrice ou cérébrale. C'est-à-dire qu'au niveau des enfants, ça va être plus moteur leur agitation. La personne va courir, sauter, grimper d'un rideau, d'un mur, sur le divan, etc. Au niveau des adolescents, ça va être surtout aussi au niveau moteur, mais aussi au niveau cérébral. Et quand on parle de grande agitation au niveau des adultes, ben là, on parle plus de haut niveau cérébral, où est-ce que les idées se suivent sans cesse. Beaucoup d'idées qui leur passent. C'est comme avoir un hamster dans leur tête, où est-ce que ça roule tout le temps. On va retrouver une certaine agitation motrice aussi au niveau des mains et des jambes, mais à moindre effet là, que comparativement aux plus jeunes. On va retrouver une organisation qui est déficitaire, ça qui est assez commune pour les personnes ayant un TDAH. Où est-ce que l'organisation dans leur vie en général est problématique, que ce soit à la maison, à l'école, dans les relations, dans leur travail, etc. L'organisation est très, très, très difficile. On va aussi retrouver la procrastination, où est-ce que les choses ne se font pas. Les choses sont commencées, mais ne sont pas terminées, souvent. Et où est-ce que le plaisir va passer avant tout. On va retrouver aussi la notion d'impulsivité, où est-ce que la personne n'a pas de feu jaune, comme que je disais dans les autres capsules qui ont été présentées. La personne n'a pas de filtre. Ça veut dire qu'elle va dire et tout ce qu'elle pense dans sa tête sans trop penser aux impacts que ça peut avoir au niveau de ses relations, autant de couple, d'amitié, travail, etc. Et on va retrouver aussi une composante anxiété qui est commune chez toutes les personnes dans la population, mais qui est aussi présente chez les TDAH, mais à différents niveaux. Si on regarde un peu le volet médication, la médication est différente pour chacun d'entre nous. Si une molécule fonctionne pour un, ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour l'autre. Alors, il faut faire attention à ne pas essayer la médication sans en avoir parlé avec son médecin auparavant. Ça peut prendre aussi quelques essais avant de trouver la bonne molécule. Il ne faut pas se décourager. Ça peut prendre deux, trois, parfois même quatre essais avant de trouver la bonne molécule. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon suivi avec son médecin de famille à ce niveau-là. Il y a deux sortes de médicaments. Il y a des médicaments de courte durée d'environ 3-4 heures et de longue durée qui vont faire en moyenne entre 7 et 24 heures, tout dépendant de la médication. Il y a deux sortes de médicaments. Il y a les psychostimulants et les non-psychostimulants. Et je vous dirais d'aller voir la capsule précédente pour de plus amples explications à ce niveau-là, où est-ce que j'en parle un petit peu plus longuement. Il y a aussi qu'il faut prendre la médication de façon régulière, à moins que le médecin nous dise le contraire. Dans certains cas, il peut recommander de ne pas prendre de médicaments pour la période estivale, mais c'est surtout pour les enfants, pour ne pas retarder leur développement. Et il y a aussi que la médication à elle seule ne fait pas de miracle. Si on ne regarde pas toutes les stratégies qu'on doit mettre en place dans les différentes sphères de notre vie, si on n'a pas une réorganisation au niveau des habitudes de vie, seule la médication là, ne marchera pas. Alors, il va y avoir encore certaines difficultés qui vont être présentes. Alors, il faut regarder un ensemble de facteurs en plus de la médication pour pouvoir atténuer les impacts du TDAH chez la personne. Parlons du contexte de la pandémie. Depuis mars 2020, la vie telle que nous la connaissons a changé pour tout le monde. La pandémie a modifié notre façon de travailler ou d'aller à l'école. Plusieurs se sont adaptés, mais plusieurs ne se sont pas adaptés ou ont de la difficulté à s'adapter. Alors, pour les personnes ayant un TDAH, c'est encore difficile pour certains. D'autres, ça va mieux, mais pour d'autres, que ça va moins bien. Dans le contexte actuel, le travail ou les études exigent pour les personnes ayant un TDAH de développer une plus grande autonomie, une plus grande discipline, organisation, planification du temps des personnes, de l'horaire, etc. Une plus grande gestion et aussi de développer un éventail de stratégies pour réussir à combler et à s'adapter. Le travail ou les études à la maison apportent certains avantages, mais aussi des inconvénients. À être confiné à la maison ou travailler ou étudier de la maison, ben, ça va affecter le moral. Ça a un impact sur le social. Ça a un impact sur la productivité et aussi l'encadrement. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour travailler ou étudier à la maison. Et quand on parle de maison, ben, avant ça, quand on revenait de travailler ou on revenait de l'école, ben, la maison, c'était un peu notre havre de paix, c'était notre endroit pour se laisser aller. Alors que maintenant, ben, la maison s'est rendue notre bureau et notre classe. Alors que pour les parents qui ont des enfants à la maison, que ce soit avec ou sans TDAH, Le fait de se retrouver le fait de se retrouver à gérer à distance ce monde-là afin de s'assurer qu'ils suivent leurs cours, qu'ils sont devant leur ordinateur et non pas devant la télé. C'est un casse-tête qui est souvent énorme et qui est difficile à gérer à distance. Alors, on va espérer que ce soir, ben, vous allez trouver des stratégies que vous allez pouvoir adapter et développer pour mieux gérer cet aspect-là à la maison, à distance. Parlons un peu de l'espace de travail qui est à la base du télétravail ou de la télépédagogie. Ce qui est important dans cet aspect-là, c'est de vous trouver un endroit qui va être propre à vous. Où est-ce que ça ne sera pas dans la cuisine ou dans le salon? C'est les deux pires endroits que je vous dirais pour le faire. Si vous êtes obligé, prenez-le, mais si vous avez un autre endroit où est-ce que vous pouvez vous installer, je vous le recommande très fortement. Dites-vous que c'est votre espace à vous. Vous devez faire en sorte qu'il soit en ordre, qu'il soit accessible et efficace pour vous. Vous pouvez demander à votre employeur pour l'achat de table ou de chaise pour que vous soyez le plus optimum possible là, au niveau du travail. Certaines entreprises vont vous rembourser l'achat de bureau ou de chaise et n'hésitez pas à le demander. Pour la télépédagogie, c'est la même chose. Souvent, les jeunes ont déjà un espace dans leur chambre. Alors, c'est de l'aménager encore mieux car c'est différent de faire ses devoirs à la maison par la suite que de faire de la télépédagogie dans sa chambre là, 5 jours semaine pour certains ou en alternance travail, pas travail, mais école et maison par la suite. Alors, comme que je vous disais, c'est de vous trouver un endroit qui est confortable pour vous, fixe, et où est-ce que vous n'allez pas être dérangé. Alors, trouvez-vous un endroit dans ce sens-là. Gardez-le en ordre et demandez à votre employeur pour l'achat de mobilier si c'est possible. Si oui, tant mieux. Sinon, ben, essayez de vous trouver une chaise où est-ce que vous allez être confortable, qui est à mettre coussin, oreiller pour que vous soyez le plus confortable possible. Même chose pour les étudiants. Alors, si votre espace de travail n'est pas optimal, ben, ça risque d'être plus difficile d'effectuer votre travail ou d'étudier ou de suivre les cours à distance. Alors, bonne chance et trouvez-vous un bon endroit. Avoir le bon équipement est nécessaire pour faire du télétravail ou de la télépédagogie. À la base, ça vous prend un ordinateur adéquat, performant. On n'est pas obligé d'avoir le dernier cri, mais ça prend un ordinateur qui est capable de supporter les logiciels et de donner du rendement. Au niveau du télétravail, je vous dirais que c'est à l'employeur de vous fournir l'équipement informatique. Ce n'est pas à vous en tant que tel, mais c'est à voir avec votre employeur. Au niveau de la télépédagogie, ça, je vous dirais que c'est beaucoup un ajout personnel d'équipement. C'est très rare que l'école ou la commission scolaire va vous fournir de l'équipement informatique. Mais dans des cas spéciaux, ça pourrait être nécessaire. Alors, il suffit d'en parler avec l'école ou la commission scolaire pour le matériel informatique. Comme que je vous disais aussi tout à l'heure, ça prend aussi un espace de travail qui est adéquat, confortable et pour vous. Et où est-ce que vous n'allez pas le partager avec d'autres membres de la famille? C'est votre espace à vous. Il faut que vous soyez un peu aussi à l'aise comme si vous étiez au bureau ou bien à l'école. Alors, il suffit de bien vous équiper, de trouver un endroit adéquat. Au niveau de la connexion Internet, ça, je vous dirais que c'est très important. Ça prend une connexion qui est illimitée et performante, car si vous êtes en télétravail et vous avez des enfants en télépédagogie, ça va demander beaucoup de données et ça prend une connexion Internet performante et illimitée dans ce sens-là. Autre chose nécessaire pour le télétravail ou la télépédagogie, c'est une caméra vidéo avec micro et même parfois un casque d'écoute. Ça va servir à communiquer avec vos collègues, votre patron ou à suivre les cours en ligne et communiquer avec vos amis en classe. Mais ça, c'est un incontournable. Ça vous prend ça absolument. La plupart du temps, sur les portables, là, il y a déjà une caméra, il y a un micro d'intégré. Mais pour les ordinateurs de table, ben, il faut ajouter un micro et une caméra pour être au maximum de ses capacités. Alors, équipez-vous et ça va bien aller. Garder contact avec le bureau ou avec l'école est très important en télétravail ou en télépédagogie. Lorsqu'on est à la maison, il est très important de garder contact avec ses collègues qui sont eux aussi à la maison, mais aussi avec son patron pour justement vérifier le travail qu'on a à faire, les échéanciers qu'on a et est-ce qu'on est à jour dans nos informations. En temps de pandémie, la communication va se faire beaucoup par courriel, téléphone, visioconférence. Alors, c'est important de garder ces contacts-là, de ne pas rester à la maison sans contact. C'est pas bon pour personne, mais pour le TDAH, c'est encore plus important pour justement garder le focus sur qu'est-ce qu'il a à faire. Au niveau de la télépédagogie, ben, c'est sensiblement aussi la même chose. C'est tout un autre monde, là, le fait de suivre des cours en ligne. C'est un autre genre de communication avec le prof. Comme ma fille est à l'université, puis je vous dirais qu'être avec 200 autres personnes, là, dans une classe, ben, c'est pas évident. Et de garder contact avec le prof, de voir un peu si on a des questions à poser. C'est toute une autre dynamique et c'est toute une autre histoire. C'est bon de vérifier un peu les moyens de communication qu'on a avec le professeur, mais aussi pour ceux qui ont des difficultés, de garder contact avec le service d'aide aux élèves pour justement là, vérifier les accommodements, comment qu'on peut s'organiser pour les examens, pour la prise de notes, là, un petit peu plus tard, on va pouvoir voir un peu quels sont les outils technologiques que vous allez pouvoir utiliser. Mais pour la télépédagogie, il faut tenir au courant des difficultés qu'on a et voir avec l'école qu'est-ce qui peut être aménagé pour justement là, nous aider. Et comme que je vous disais pour les personnes TDAH au niveau du télétravail, de garder contact avec ses collègues et son patron est primordial pour justement être performant, savoir qu'est-ce qu'on a à faire, est-ce qu'on est dans les temps et ça nous permet justement de garder le focus puis de garder aussi le moral, d'avoir des nouvelles de tout le monde puis voir un peu comment que tout le monde se sent, c'est très important. Alors, n'hésitez pas à garder contact avec vos amis, vos collègues et votre patron. Pour l'école, c'est de garder contact avec le professeur, la direction. Ne pas hésiter à communiquer avec eux si vous avez des difficultés. C'est une des choses les plus importantes en milieu de télétravail et de télépédagogie. Alors, n'hésitez pas.
Camille vient de nous montrer comment ou les moyens qu'on peut prendre pour les choses qu'on peut mettre en place pour avoir des conditions gagnantes en contexte de télépédagogie ou de télétravail. Par contre, même si on fait tout ce qu'on doit faire pour s'assurer d'être bien outillé et d'être bien disposé aux apprentissages ou à une participation active au processus de télépédagogie ou de télétravail, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est là que c'est intéressant de connaître quelques outils technologiques qui vont aider la personne présentant un trouble de l'attention à faire avec son déficit d'attention. Alors, on va regarder pendant les prochaines minutes différentes façons de faire, un peu pour compenser ou pallier à ces difficultés d'attention. On va regarder, entre autres, comment faciliter l'intégration et l'organisation du savoir là, en contexte de télétravail et de télépédagogie. Donc, c'est important de savoir comment se donner une chance. Parce que, on le sait, c'est difficile pour une personne présentant un déficit d'attention d'offrir une attention soutenue en contexte de visioconférence ou en contexte de téléréunion. C'est aussi difficile pour une personne qui est habituée de bouger ou qui aime bouger, de rester assis pour une longue période de temps, à visionner un cours de cégep en ligne, de participer à une réunion avec ses collègues sur Zoom ou sur Teams. Souvent, puis je vous dirais que c'est pas rare pour la personne avec un trouble de l'attention, d'en perdre de longs bouts. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir des moyens de revisionner ou de visionner à nouveau, pardon, ou de réécouter à nouveau certains cours ou certaines réunions ou certaines formations suivies là, en ligne. Donc, pour pouvoir se donner une chance comme personne avec un trouble de l'attention, on va regarder dans les prochaines minutes comment enregistrer une réunion, une formation, un cours, une conférence là, à des fins personnelles. Avant d'aller plus loin au niveau des outils technologiques qui sont à la disposition des personnes là, pour pouvoir annoter de façon plus automatisée une réunion, un cours ou une formation pour produire des enregistrements qui vont être réécoutés plus tard. Je veux ouvrir une petite parenthèse sur les aspects juridiques de ce que nous allons vous offrir comme outil et vous parler un peu du contexte de la loi entourant les enregistrements audio et vidéo. Sur ce plan, la loi est catégorique. Toute conversation à laquelle une personne prend part peut être enregistrée. Donc, la personne qui enregistre n'a pas à dévoiler à son interlocuteur qu'il est en train ou qu'elle est en train d'enregistrer le cours, la réunion ou la conférence. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que même s'il est légal d'enregistrer une conversation, il n'est toutefois pas toujours permis de pouvoir la rendre publique. En fait, si j'enregistre un cours, et c'est là que c'est intéressant de connaître quelques outils technologiques qui vont aider la personne présentant un trouble de l'attention à faire avec son déficit d'attention. Alors, on va regarder pendant les prochaines minutes différentes façons de faire, un peu pour compenser ou pallier à ces difficultés d'attention. On va regarder, entre autres, comment faciliter l'intégration et l'organisation du savoir là, en contexte de télétravail et de télépédagogie. De prendre en compte l'aspect des droits d'auteur au niveau des conférences qui sont données en ligne ou bien des cours qui sont donnés en ligne. Je ne peux pas distribuer ça de façon libre. Mais il n'y a aucune contradiction par rapport à un usage personnel. Et ce qui est surtout important, c'est que personne, ni l'employeur, ni un enseignant, ne peut interdire l'enregistrement d'une conversation à laquelle vous prenez part. Et là, c'est bien important de souligner, de surligner et d'encercler l'élément, une réunion, un cours à laquelle vous prenez part. Donc, ça, c'est une condition essentielle. D'accord? C'est une condition importante à ce droit. Et si vous êtes dans une situation où un enseignant ou un employeur vous demande si vous êtes en train d'enregistrer ou si vous avez enregistré le contenu d'un cours ou le contenu d'une réunion, vous n'êtes pas obligé, selon la loi, de lui répondre ou de lui dire la vérité. Vous êtes dans vos droits de le faire. Donc, je ferme cette parenthèse parce qu'il y a comme un flou au niveau des connaissances juridiques au plan des enregistrements personnels. C'est vrai que c'est illégal d'enregistrer pour distribuer ou à des fins diffamatoires, mais si on le fait uniquement à des fins personnelles, on demeure dans ses droits. Donc, ceci dit, on va regarder maintenant différentes façons d'enregistrer le contenu d'un cours, d'une réunion ou d'une conférence qu'on regarde en ligne. Il existe différentes modalités d'enregistrement. On va en regarder trois. On va regarder d'abord le mode audio, par la suite le mode vidéo et après le mode verbatim. On va les regarder maintenant un peu plus en détail. Quand on parle d'un enregistrement en mode audio, ce type d'enregistrement va permettre à la personne la possibilité de réécouter un cours, une formation ou une conférence en balado-diffusion. Donc, vous allez avoir, après cet enregistrement, un fichier audio que vous allez pouvoir écouter dans votre voiture, avec votre baladeur, sur votre téléphone portable, dans vos déplacements à la maison ou peu importe le moment que vous allez choisir. Donc, ça peut être utile. Des fois, on a besoin, on a perdu beaucoup de bouts. Il y a des bouts où on est parti dans la lune dans un cours, puis ça peut être toujours agréable de pouvoir réécouter un cours, des fois juste avant un examen, ou de réécouter une formation une deuxième fois pour être sûr que je vais intégrer tout le contenu enseigné par le formateur. Donc, c'est une voie intéressante. Des fois, hein, dans notre routine au gym, dans notre routine dans notre routine, par exemple, dans la voiture, je peux réécouter un cours, je peux réécouter une formation. Le deuxième mode d'enregistrement est le mode vidéo. Donc, ça va offrir à la personne la possibilité de visionner à nouveau un cours, une formation ou une conférence, mais cette fois-ci sur son téléphone, sur sa tablette, son ordinateur ou encore sa télévision. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir à nouveau revoir le contenu tel que je l'ai regardé la première fois pour des fois reprendre aussi compléter mes notes de cours ou bien pour des fois, hein, il y a des gens qui apprennent bien dans une modalité visuelle et auditive, donc la possibilité de réécouter le cours peut être très aidant en ce moment-là. Et le troisième mode d'enregistrement qu'on va regarder ensemble, c'est celui des verbatims. En fait, les verbatims, c'est une transcription écrite d'un contenu audio. Donc, le mode verbatim va offrir à la personne la possibilité de transcrire de façon automatique un cours, une formation, une conférence en texte à relire. Donc, ça peut être très, très, très intéressant quand j'ai de la difficulté comme étudiant à faire deux choses en même temps, écouter, regarder et prendre des notes, par exemple. Hein? Donc, la possibilité d'utiliser la piste audio d'un enregistrement pour pouvoir transformer l'audio en texte écrit va être excellent pour les notes de cours, puis va être aussi excellent pour une relecture d'un cours. Donc, sans plus attendre, on va regarder immédiatement ces trois façons de produire des enregistrements à des fins personnelles. Nous allons d'abord débuter en regardant ensemble la procédure pour produire des enregistrements audio sur Windows 10. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel libre Audacity. Audacity est un logiciel qui permet de faire des enregistrements audio, mais offre aussi la possibilité de faire du montage audio. Nous, pour la démonstration qui va suivre, on va utiliser seulement la fonctionnalité d'enregistrement audio. Avant de débuter tout enregistrement, c'est important de s'assurer que la fonctionnalité de mixage stéréo est activée dans Windows 10. Cette fonctionnalité de mixage stéréo va nous permettre d'utiliser la sortie des haut-parleurs ou encore la sortie des écouteurs comme microphone virtuel pour permettre l'enregistrement des pistes audio qui nous intéressent. Donc, comment s'assurer que cette fonctionnalité a été activée? Vous allez d'abord cliquer sur le bouton droit de l'icône du petit haut-parleur là, tout en bas à gauche, pardon, tout en bas à droite, près de l'heure, là. Vous allez cliquer avec le bouton droit et vous allez sélectionner Ouvrir les paramètres audio. Une fois cela fait, vous allez observer que dans les périphériques d'entrée, il y a la possibilité de gérer les périphériques audio. C'est là qu'on va aller vérifier quels sont les périphériques d'entrée qui sont activés dans votre session Windows. Si le périphérique mixage stéréo n'est pas activé, vous allez le sélectionner et cliquer sur le bouton Activer. Par la suite, vous pourrez sélectionner ce périphérique comme périphérique pour produire les enregistrements. Donc, vous regardez votre conférence, vous regardez votre formation ou vous assistez à un cours en ligne et puis vous lancez Audacity pour produire, en fait, pour enregistrer le contenu audio. Pour ce faire, au niveau des périphériques, vous allez sélectionner dans Audacity le mixage stéréo et produire l'enregistrement en
Vous connaissez pas mal de
appuyant
systèmes, mais du coup,
sur le
c'est quoi Mnemonic
bouton,
en principe?
le
Qu'est-ce
petit
qui
rond
t'atteint? Qu'est-ce
rouge,
qui est à
pour
savoir en fait,
débuter
grosso modo, si on
l'enregistrement.
devait établir un petit sommaire? Alors en principe, Mnemonic d'abord,
Une fois
c'est pas
l'enregistrement
forcément
terminé,
toutes
vous aurez à
les
cliquer sur
versions
le petit carré
d'accord, des systèmes
noir
Mnemonic,
et
souvent
enregistrer
et
votre
ça
fichier
suit un certain
audio.
modèle de liberté. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle notamment la licence libre. Donc c'est pas forcément bon, une licence, mais c'est plus une philosophie, comprenez ça. C'est-à-dire que c'est une manière en fait de À savoir, en fait, grosso
Donc, tout
modo, si on devait
fonctionne bien,
établir un
notre
petit sommaire.
enregistrement a
Alors, en
bien
principe, Mnemonic,
fonctionné.
d'abord, c'est.
Un petit mot pour parler maintenant des utilisateurs de macOS. La fonctionnalité d'enregistrement avec la périphérique, en fait le périphérique mixage stéréo, n'est pas disponible dans l'environnement de macOS. Toutefois, il est possible de télécharger un logiciel produit par la compagnie Rogue Amoeba. C'est un logiciel intitulé Loopback. En fait, Loopback permet d'installer ce qu'on appelle un câble audio virtuel et permet de simuler un microphone qui est connecté sur la sortie audio des haut-parleurs ou des écouteurs. Donc, à l'aide du logiciel Loopback, il est possible d'enregistrer dans la version Audacity de macOS le contenu provenant d'une vidéo en ligne ou bien le contenu provenant d'une session Zoom ou Teams sur macOS. Vous retrouverez dans la bibliographie le lien vers le site web de la compagnie Rogue Amoeba et vous pourrez télécharger ainsi l'application Loopback sur votre poste de travail macOS. Regardons maintenant comment faire l'enregistrement d'une session Teams ou d'une session Zoom, ou encore l'enregistrement d'une vidéo que l'on regarde en ligne, soit sur YouTube ou sur un site ou tout autre site de vidéo en ligne. Donc, pour pouvoir enregistrer une vidéo avec l'audio, on va devoir utiliser le logiciel libre OBS Studio. Donc, vous allez devoir, dans un premier temps, installer ce logiciel. Nous allons d'ailleurs laisser le lien vers le site de OBS Project pour vous permettre de télécharger OBS Studio et de l'installer sur votre ordinateur. C'est important de mentionner que le logiciel OBS Studio est un logiciel multiplateforme, donc va pouvoir être utilisé soit sur Windows, soit sur macOS ou encore sur Linux. Donc, après avoir installé le logiciel OBS Studio, vous allez devoir ouvrir le logiciel et créer dans un premier temps une nouvelle collection de scènes. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans le menu supérieur et ouvrir dans la collection, ou plutôt sélectionner dans la collection de scènes l'item nouveau pour pouvoir créer un nouveau projet d'enregistrement. Donc, vous donnez un titre à votre collection de scènes et par la suite, vous devrez appuyer sur le bouton OK. Pour pouvoir réaliser l'enregistrement, je vais d'abord sélectionner dans comme source une capture de fenêtre. La fenêtre que je vais vouloir sélectionner ou enregistrer, c'est la fenêtre de mon navigateur. C'est peut-être la fenêtre de ma session de mon logiciel de visioconférence. Donc, je choisis la fenêtre et au niveau de la méthode de capture, je choisis celle de Windows Graphic Capture. Après avoir sélectionné l'entrée vidéo, je vais devoir ajouter une deuxième source qui va être l'entrée audio. Donc, je vais appuyer sur le plus et sélectionner l'item Capture audio qui va me permettre d'enregistrer l'audio provenant de Zoom ou de Teams ou du logiciel de la vidéo que je regarde en ligne. Donc, je donne un titre à ma source audio. Après avoir cliqué sur le bouton OK, je vais choisir le périphérique que je vais utiliser pour mon enregistrement. Donc, dans le cas qui nous concerne, on va prendre le son qui provient de la sortie des haut-parleurs. Donc, ce que je peux voir maintenant, c'est que dans mes sources, j'ai une entrée audio et une entrée vidéo. Avant de débuter l'enregistrement, je dois dans un premier temps m'assurer que dans les paramètres audio, la fonctionnalité de mixage stéréo est sélectionnée. Ou plutôt activé. Et dans un deuxième temps, je dois sélectionner ou m'assurer que la sortie du son est à un niveau suffisamment élevé. Donc, Habituellement, je vais procéder à un réglage autour de 50, là, qui est un bon niveau d'intensité sonore pour un enregistrement en ligne. Donc, après avoir ajusté mes paramètres audio, je peux à ce moment cliquer sur le bouton Je suis prêt en fait à démarrer mon enregistrement. Donc, je démarre mon enregistrement
Éléments en
en
lien avec
cliquant sur le
l'aide au
bouton
travail.
Démarrer
Je pense qu'un des
l'enregistrement
défis pour
à
la
votre
personne
droite.
présentant un
Je mets
TDAH, ça va
par la
être
suite ma
d'apprendre
fenêtre
à respecter les règles de
ma
l'organisation.
fenêtre ma vidéo en plein écran et je laisse aller mon enregistrement jusqu'à la fin. Une fois l'enregistrement, en fait, une fois le visionnement de la vidéo terminé, je retourne à OBS Studio et je vais devoir cliquer sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Voilà. Et par défaut, OBS Studio va enregistrer votre production dans le dossier vidéo. Alors, avec comme indication la date et l'heure de votre
Éléments en lien avec
enregistrement.
la vie au travail.
Et
Je pense
de
qu'un
cette
des défis
façon,
pour la
vous
personne
aurez
présentant.
la possibilité de regarder par la suite sur n'importe quel appareil, que ce soit votre téléphone, votre vidéo ou votre tablette ou encore votre ordinateur, votre vidéo enregistrée. Regardons finalement comment obtenir une transcription écrite d'une formation ou bien d'un tutoriel visionné en ligne sur une plateforme de distribution de vidéos ou encore sur une session de télétravail ou de télépratique avec Zoom ou encore avec Teams. Pour ce faire, nous allons utiliser le traitement de texte Word inclus dans la suite bureautique Office 365 pour obtenir cette transcription écrite de la vidéo ou de la session de travail en visioconférence. D'abord, il va être encore important de s'assurer que nous utilisons bien le périphérique de mixage stéréo pour obtenir l'enregistrement de la trame sonore. Donc, on va, à l'aide du bouton droit sur la souris, cliquez sur le petit haut-parleur en bas et ouvrir les paramètres de l'audio. Dans la gestion des périphériques, on va s'assurer que le périphérique mixage stéréo est bien activé. Une fois cela fait et que nous sommes en plein cours de visionnement, nous pouvons ouvrir un nouveau document dans Word et nous diriger dans le menu principal à la sélection du menu d'accueil. Là, vous allez retrouver à votre droite une icône avec un microphone
C'est
et
deux
vous allez
parcours de trois.
cliquer sur
Il faut
Dicter.
comprendre que l'open source,
À ce
dorénavant, parce
moment-là,
qu'ils sont pas du tout d'accord pour dire par exemple que c'est
le
bien ou libre, ça n'a rien à
logiciel
voir.
Word
Vous pouvez avoir quelque chose de libre qui est open source, mais
fera
l'open source n'est pas forcément libre. L'open source, c'est
la
surtout une méthodologie de
transcription du
développement, c'est-à-dire qu'on parle en
texte
termes techniques codage. C'est-à-dire qu'un
à
développeur qui va
partir de
créer un
la
logiciel,
vidéo
s'il veut que son
que
code
vous
soit disponible,
visionnez ou à
etc., on va
partir de
parler
la
d'open
session
source. Le
télétravail
libre,
ou
comme
de
je vous l'expliquais
télépédagogie.
il y a quelques minutes là, vous avez vu que ça,
Une
c'est
fois
plus une
cela
philosophie, d'accord?
terminé,
C'est pas forcément quelque chose de
vous
technique.
pourrez
On
aller
pourrait d'ailleurs
cliquer
appliquer
en
cette
bas
notion de liberté,
sur
donc de libre à
l'icône
d'autres
du
choses que de l'informatique,
microphone
alors que l'open
de
source, appliquer autre chose
couleur
qu'informatique, ce serait pas
rouge.
logique. Là, on parle vraiment en termes techniques, codage, alors que la liberté, le libre.
En donner un titre à votre document et procéder par la suite à l'enregistrement de celui-ci. Il est surprenant de voir la qualité de la transcription de la suite bureautique Office 365. Je vous la recommande fortement pour la réalisation de cette tâche. Lors de notre dernière présentation sur le déficit d'attention chez l'adulte, nous avions abordé le thème de l'organisation avec vous et parlé entre autres du logiciel et de l'application Notebook pour s'aider au plan de l'organisation du quotidien. Alors, nous allons prendre quelques minutes ensemble maintenant pour regarder les différents logiciels ou applications qui existent pour aider l'étudiant ou le professionnel à s'organiser au quotidien et à organiser ses notes de travail. On va regarder ensemble principalement trois applications. D'abord, le logiciel Notebook de la compagnie Zoho. Dans un deuxième temps, nous allons parler de OneNote de Microsoft et nous allons effleurer le sujet de Google Keep de Google. Regardons d'abord ce qui distingue ces logiciels un de l'autre. Tous les trois, autant Notebook, OneNote que Google Keep, sont multiplateformes, donc il est possible d'utiliser ces logiciels autant sur macOS, Windows, Linux, autant sur iOS ou encore Android. Ce qui caractérise Notebook, c'est la possibilité d'enregistrer des fichiers audio à l'intérieur des notes que l'on prend. Il est aussi possible d'insérer des pièces jointes comme des documents PDF, des photos, des images ou encore des documents Word. La principale critique que je fais à ce logiciel, c'est qu'il existe uniquement en français pour les plateformes Android et iOS, donc uniquement en français sur les tablettes et téléphones. Quant au logiciel OneNote, celui-ci permet, en fait, c'est le seul qui le permet, la saisie vocale qui est disponible. Donc, il est possible d'obtenir des transcriptions écrites de pistes audio qu'on enregistre lors de nos prises de notes. Lui aussi permet l'insertion de fichiers audio et aussi l'insertion de pièces jointes comme des documents Word, PDF, des photographies ou encore des images. En ce qui a trait finalement à Google Keep, celui-ci a quand même une utilisation qui est beaucoup plus limitée et se restreint à la possibilité de prendre des notes, de petites notes sous forme de texte, ou encore d'insérer des documents joints comme des documents PDF, des documents Word, ou encore des photos ou des images. Mais ne permet pas la saisie vocale et ne permet pas l'enregistrement de fichiers audio à l'intérieur des notes. Donc, prenons quelques minutes pour regarder la fonctionnalité d'enregistrement de notes audio à l'intérieur des cahiers de notebook. Pour le but de cet exercice, on va d'abord créer dans Notebook un cahier que nous allons intituler « Conférence ». Pour ce faire, nous allons cliquer sur le petit plus et donner un titre à notre cahier. Donc, dans le cas qui nous concerne, on va appeler ce cahier « Conférence ». Il est possible de personnaliser ce cahier en changeant sa couverture à l'intérieur des choix à faire là, par le logiciel Notebook. Une fois cela fait, disons que nous souhaitons enregistrer la trame sonore de la conférence à laquelle nous assistons. Donc, dans un premier temps, c'est important de s'assurer que la fonctionnalité du périphérique mixage stéréo est activée et que nous réglons à un niveau d'intensité sonore suffisant pour permettre un enregistrement de qualité. Donc, supposons que vous êtes en cours de visionnement d'une conférence. Là, ici, je sélectionne le titre de cette conférence pour pouvoir l'intégrer à la note que je vais ajouter. Je sélectionne en haut, dans les petits trois points, la fonctionnalité d'enregistrement audio. Je colle le titre de la conférence et ce que je peux voir, c'est que le périphérique de mixage stéréo me permet d'enregistrer justement la piste audio du vidéo visionné sur YouTube. Alors, arrêtons la vidéo sur YouTube pour pouvoir vérifier par la suite que l'enregistrement a bien réussi. Donc, en appuyant sur le petit triangle, je constate effectivement que j'ai pu ajouter comme note audio dans mon cahier conférence le contenu de la conférence Trucs et astuces que nous avons donnée la dernière fois. Regardons cette fois-ci d'un peu plus près le logiciel de prise de notes OneNote de la suite bureautique de Microsoft Office 365. Nous allons examiner d'un peu plus près les fonctionnalités de prise de notes audio ainsi que la fonctionnalité de transcription écrite de l'application. Donc, regardons d'abord la fonctionnalité de prise de notes en modalité audio seulement. Par souci d'efficacité, sélectionnons d'abord le titre de la conférence à l'intérieur de la fenêtre de notre navigateur. Par la suite, ouvrons l'application OneNote dans Microsoft Office et sélectionnons le bloc-notes que nous allons utiliser pour inscrire la nouvelle note audio. Dans le cas qui nous concerne, dans notre cours d'informatique, nous allons, à l'aide du bouton droit de la souris, créer une nouvelle note et coller le texte copié dans la fenêtre de notes de notre navigateur pour insérer le titre de la conférence. Par la suite, avant de procéder à l'enregistrement d'un clip audio dans notre note, nous allons, pour ce faire, sélectionner dans Insertion la fonctionnalité audio pour permettre l'enregistrement de la piste sonore. D'abord, toutefois, nous allons devoir nous assurer que la fonctionnalité du périphérique de mixage stéréo est activée à l'intérieur des paramètres de son de Windows 10. Lorsque nous savons que ce périphérique a été activé, nous pouvons par la suite s'assurer encore une fois que le niveau sonore est de qualité, ou en fait que le niveau sonore a été ajusté de sorte qu'on puisse obtenir le meilleur enregistrement possible. Une fois cela fait, nous allons cliquer dans le menu transversal, le bouton rouge à côté duquel il est écrit « Audio ». Une fois cela fait, on peut partir la vidéo sur YouTube et procéder à son enregistrement.
Et sans cette expérience pratique, probablement,
nous allons laisser fonctionner l'enregistrement pendant quelques secondes, puis nous allons arrêter celui-ci à l'aide du petit carré dans le menu transversal. Arrêtons la conférence en cours et allons vérifier si le tout a bien fonctionné. Pour pouvoir télécharger l'enregistrement audio, vous allez cliquer sur l'icône d'enregistrement à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner « Enregistrer sous » pour que vous puissiez télécharger ce fichier audio dans votre dossier téléchargement de votre ordinateur personnel. Voyons voir si le tout a bien fonctionné. Effectivement, comme on peut le constater, nous avons maintenant une note audio dans notre cahier de cours d'informatique sur OneNote. Tout comme le traitement de texte Word, OneNote offre la possibilité à l'utilisateur d'obtenir une transcription écrite d'un contenu vidéo. La procédure est sensiblement la même que celle vue précédemment avec Word. Donc, c'est important, dans un premier temps, de s'assurer que le périphérique mixage stéréo a été activé dans les paramètres audio, car c'est ce périphérique qui sera utilisé pour l'enregistrement de la trame audio. Alors, regardons maintenant de plus près comment faire la chose dans OneNote. Donc, après avoir ouvert le logiciel OneNote et sélectionné le bloc-notes qui nous concerne ou que l'on utilisera pour l'enregistrement de la transcription, vous devez cliquer sur l'icône du microphone encore une fois pour obtenir la transcription écrite du contenu audio de la vidéo regardée en ligne ou bien du contenu de la présentation regardée sur le logiciel de visioconférence. Lorsque la présentation ou la formation est terminée, vous devez cliquer à nouveau sur l'icône du microphone pour arrêter l'enregistrement et arrêter ainsi la transcription écrite. Voilà qui fait le tour de quelques-uns des outils technologiques qui existent pour aider les personnes présentant un trouble de l'attention en contexte de télétravail ou de télépédagogie. Il est important pour moi de vous rappeler qu'il existe des balises juridiques en ce qui a trait à l'enregistrement d'un cours, d'une formation ou d'une conférence en ligne. Je vous invite à lire attentivement les avis légaux que nous avons mis en référence avant de procéder. Du reste, nous n'avons touché qu'à quelques-unes des fonctionnalités des logiciels de prise de notes et que peut-être dans le processus nous n'avons pas vraiment rendu justice à chacun de ceux-ci. Pour moi, les logiciels de prise de notes pourraient faire le sujet d'un autre atelier à lui seul.
Avoir des attentes réalistes, je crois que c'est important d'en parler en temps de pandémie, car tout est nouveau, tout le monde doit s'adapter. C'est une autre façon de faire, de travailler, d'aller à l'école. Et c'est une situation qui est très difficile pour certains. D'autres vont s'adapter un petit peu mieux, d'autres vont avoir plus de difficultés. Mais c'est de prendre le temps de trouver la meilleure façon de travailler pour nous, d'aller à l'école, de suivre ses cours. C'est une adaptation constante et des fois, il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps pour s'adapter, mais c'est important d'y aller à son rythme. C'est important d'en parler avec son patron quand on est en télétravail, tout dépendant de la situation familiale qu'on vit aussi. Parfois, ça peut être plus difficile de travailler à la maison parce que notre conjoint est aussi à la maison ou notre conjointe. On a des enfants aussi à la maison. Alors, des fois, c'est impossible de faire une journée de travail pleine comme qu'on faisait au bureau parce qu'on est dérangé, parce qu'on doit s'occuper des enfants qui sont eux aussi en télépédagogie. Alors, c'est important de s'adapter puis d'avoir des attentes réalistes. par rapport au travail qui nous est demandé. D'en discuter avec son patron, je pense que c'est une des clés du succès. Pour ce qui est de la télépédagogie, pour les jeunes, ben c'est un autre monde virtuel dans lequel ils ne sont pas habitués en tant que tels à aller là, sont habitués d'être en contact avec leurs amis, le professeur, etc. Alors, de tout faire ça de façon virtuelle, je pense que c'est quelque chose. Puis quand on a un TDAH, ben c'est quand même peut-être beaucoup demandé à la personne de s'adapter. À l'école, ben on peut avoir des accommodements, mais c'est là qu'en télépédagogie, est-ce que ça, c'est possible? Il faut en discuter avec le service d'aide aux élèves quand on est au cégep et à l'université, mais d'en parler avec le professeur ressources quand on est au secondaire. Si c'est possible de prendre moins de cours aussi pour les personnes qui sont au cégep ou à l'université, ben ça peut être aussi une option. Comme ça, ben on est moins surchargé, on a un petit peu plus de temps pour s'adapter et de suivre un peu le rythme. Mais faut pas hésiter à demander de l'aide quand on n'y arrive pas ou quand on trouve qu'on a plus de difficultés. Ne pas attendre, ne pas faire en sorte d'avoir des gros échecs là, à la fin de l'année. Si on prend le problème en main tout de suite, ben on a des chances de pouvoir réussir notre fin d'année scolaire. Mais l'important, c'est de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte de demander de l'aide. C'est tout à fait normal. C'est important de prendre un peu du recul, de penser à notre affaire, de regarder c'est quoi ma situation, puis de faire des changements si c'est nécessaire. Que ce soit au niveau de notre espace de travail, au niveau de la garde des enfants quand que les conjoints ou les conjointes sont séparés, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une garde adaptative un peu quand tout le monde est à la maison, ben comment qu'on peut s'organiser, c'est quoi les limites qu'on doit mettre en place et d'en parler à son patron, d'en parler avec ses amis de qu'est-ce qu'on vit, de ne pas rester avec le mouton en dedans là, quand on trouve ça difficile. C'est pas facile pour personne, c'est une situation qui est extraordinaire, mais qui est hors de l'ordinaire surtout, mais qui est gérable d'une certaine façon, mais pour ça, il faut prendre les moyens, il faut aller au-devant des difficultés, penser, s'organiser, planifier, mais si c'est fait dans un contexte où est-ce que tout le monde est là pour s'entraider, je crois que on peut avoir des attentes qui vont être réalisables, qui vont être réalistes, mais pour ça, prenez le temps, adaptez-vous et soyez réaliste par rapport à vos capacités et qu'est-ce qui vous est demandé. Bien gérer son stress en temps de pandémie, ben je crois que le stress est assez présent pour tout le monde avec ou sans TDAH. Là, c'est une situation qui est stressante. On écoute les nouvelles, on est à l'affût de qu'est-ce qui se passe, de tout ce qui est les cas d'éclosion qu'il peut avoir. Mais quand on est en télétravail ou en télépédagogie, ben je pense qu'on essaye de garder notre calme, on essaye de voir un peu sur quoi qu'on a du contrôle dans un premier temps. On n'a pas le contrôle sur tout, mais sur quoi qu'on peut avoir du contrôle, là? Est-ce qu'on a le contrôle sur nos sorties, sur qui qu'on voit, sur qu'est-ce que nos enfants font? D'une certaine manière, oui et non. Mais je crois que d'avoir un certain contrôle sur qu'est-ce que nous avons et sur quoi nous avons du pouvoir, je pense que ça va être important de garder ça. D'avoir une bonne hygiène de vie à la base, je crois que c'est très important. D'avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne alimentation, de faire de l'exercice, malgré que les gyms soient fermés, je pense que d'aller prendre une marche dehors, d'aller faire nos exercices, on est habitué à faire du jogging, des choses comme ça, c'est important de le continuer et d'avoir une certaine routine qu'on a instaurée à la maison, de garder cette routine-là le plus possible. Il faut rester informé, mais pas trop en même temps. Il faut juste savoir un peu qu'est-ce qui se passe, mais de ne pas mettre le focus seulement là-dessus et de ne pas trop s'en faire aussi. C'est de faire confiance un peu aux autorités pour voir un peu comment ça se passe et comment ils vont régler ça. On peut appliquer aussi différentes stratégies là, comme la méditation, le yoga, écouter de la musique, faire du sport pour justement diminuer notre stress puis penser à autre chose. Ne pas rester seul aussi avec nos inquiétudes, en parler avec nos amis, nos parents. C'est important de ne pas rester, comme que je disais tout à l'heure, avec le mouton en dedans et de faire en sorte que notre anxiété va augmenter. Alors, parlez-en. Et de ne pas toujours rester à l'intérieur aussi, de sortir dans les limites du confinement. Mais je pense que d'aller prendre des marches, d'aller à l'extérieur, d'aller dans la nature, d'aller faire nos commissions qui sont nécessaires, c'est important, surtout quand on est en télétravail ou en télépédagogie, de toujours être à la maison, ben c'est pas bon. C'est bon de changer d'air. De respirer autre chose, d'avoir un autre visuel que nos quatre murs de maison, ben ça fait du bien aussi. Et là, j'ai mis un lien aussi sur pouvoir d'autres stratégies, qui est un organisme là à Montréal, TCC Montréal. Et c'est très pertinent, c'est très bon comme stratégie, alors n'hésitez pas à les consulter. Mais de bien gérer son stress, c'est aussi bien gérer sa personne, de bien gérer la famille, de bien gérer son travail. Et comme ça, ben le stress a tendance à diminuer et on essaye de garder contrôle sur qu'est-ce qu'on peut avoir le contrôle aussi. C'est ça le plus important. Pour résumer, je vous dirais que le télétravail et la télépédagogie ont apporté leur lot de difficultés à beaucoup de personnes, mais ça a permis aussi de développer l'adaptation, l'autonomie, une maîtrise technologique que beaucoup ne savaient pas qu'ils avaient, qui ont appris à utiliser un ordinateur, qui ont appris à utiliser différents logiciels. Et c'est un plus pour ces personnes-là. Alors, pour les personnes qui ont un TDAH, ben ça a fait ressortir beaucoup de qualités qu'ils ont en dedans de eux. Et que comme la débrouillardise, l'ingéniosité, le leadership, la confiance en eux et l'énergie qu'ils ont. S'ils ont pu démontrer toutes ces qualités-là dans différents projets, dans différentes situations, ben tant mieux parce que c'est le propre au TDAH d'avoir toutes ces qualités-là. Il suffit juste de les mettre en avant-plan et c'est tout va bien fonctionner. On va espérer que les stratégies qui ont été démontrées ce soir vont vous aider. Ne pas hésiter à les regarder souvent, les mettre en application. Comme que je disais, ce qui est important, c'est comment l'intégrer dans notre routine et non pas mettre l'accent sur la stratégie, mais comment l'intégrer. Et en faisant ça, ben, ça va bien aller. Tout le monde va réussir son travail ou ses études. Alors, on va espérer que ces stratégies-là vont vous être utiles dans le présent et aussi dans le futur. Merci.